Chroniques algériennes. Une émission proposée par Abdelmadjid Chéri pour faire connaître les hommes qui ont fait l'Algérie par leur œuvre, leur lutte, leur souffrance et les événements qui ont donné à l'Algérie sa place dans l'histoire mondiale. Abdelmadjid Chéri vous propose dans cette émission de mieux connaître les hommes qui ont fait l'Algérie, mais également les idées qui ont fait l'Algérie. Ces hommes, quelques-uns d'entre eux, l'Arbit Bessi, Mohamed Al-Kharoubi, Mohamed Abdelkrim Al-Mghili, Raïs Hamidou, Ahmed Reda Houhou, Abbas Lagrour, Mohamed Bouzidi et d'autres encore qu'il vous présentera tout au long de cette série Chroniques algériennes.
Abdelmadjid Chéri, ce soir dans Chronique algérienne, nous allons aborder la deuxième partie de Ahmed Bey, en tout cas de l'émission consacrée à Ahmed Bey. Et nous allons reprendre à partir de 1926, date à laquelle il est nommé au poste de Bey de Constantine. Oui. Alors comment cette décision est prise, comment il en arrive à s'emparer du pouvoir? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qui va se produire d'important, de déterminant dans ce qui va suivre pour Ahmed Bey?
Bien, bonsoir. Alors, d'abord, Ahmed Bey ne s'est pas emparé du pouvoir. Il a été chargé.
Non, là, c'était parce que j'étais resté sur l'idée de...
Des intrigues et de son
passage par Blida. Donc, je continuais à avoir ce retour à Constantine, oui, et comme étant pratiquement une prise de pouvoir.
Bon, Ahmed Bey à Blida était resté en rapport avec un aide de camp qui lui rendait visite très souvent, qui était au service de Bey de Constantine. Donc il était resté au courant de ce qui se passait dans la province de Constantine et surtout des problèmes créés par la gestion du bey en poste et de son activité à l'intérieur des tribus. Il avait fait à peu près l'unanimité autour de lui des chefs de tribu qui le considéraient comme étant un faible, qui n'avait pas d'envergure et qui ne pouvait pas valablement administrer la province. Il s'en est ouvert à un proche du Dey, Yahya Agha. Et il s'est inquiété de la situation qui prévalait dans la province de Constantine, qui était une situation assez alarmante, parce que les beys avaient pour réputation de s'enrichir de par leur poste au détriment des tribus. Donc ce qui était payé au Dey une fois par an comme impôt n'était qu'une infime partie de ce qui était effectivement prélevé auprès des citoyens algériens. Bon, il est vrai que la charge fiscale de ce temps-là variait selon les années et selon la prospérité, aussi bien du trésor public à Alger que de la situation locale. Ahmed Bey a fait comprendre à Yahya Agha, qui a transmis au Dey, lui a fait comprendre que la province devait être reprise en main pour le bien-être de tout le monde, aussi bien pour la paix dans la province que pour les finances de l'État. Ahmed Bey est un homme avant d'être bey, était déjà un homme très à l'aise. La charge de son père, la charge de son grand-père, avait fait amasser quand même une fortune.
Donc, il y avait un patrimoine familial.
Il y avait déjà un patrimoine familial. Il y avait également des alliances familiales avec les plus grandes tribus de la province de Constantine.
Et du sud.
Surtout du sud.
De Constantine.
Et des Aurès. Parce que ce seront ces tribus-là qui lui apporteront une aide inestimable au moment où, disons, sa situation était considérée comme étant perdue face à l'armée française. Et il y avait justement les Benghana, d'une part, et il y avait les Harakta, qui étaient, disons, les deux grandes formations sur lesquelles il s'est toujours appuyé. Il y avait également les Nemcha. Donc, il a fait comprendre au Dey que lui, à la tête de la province, les finances de l'État s'en porteraient mieux. D'autant plus que, nous sommes en 1826, les finances de l'État elles-mêmes avaient un peu décru. La situation financière n'était pas brillante. Il y avait, à ce moment-là, des famines.
Donc il y avait de véritables problèmes au niveau de la province de Constantine.
La province de Constantine, les seuls problèmes, c'était des problèmes d'administration, de pure administration. Les problèmes, disons, de finances ne se posaient pas. C'était une province assez riche. Et c'était une province qui, se suffisait largement.
Mais il n'en demeure pas moins que j'ai l'impression qu'il était en véritable situation de coup de force, étant donné que nous avions une administration qui était dirigée, mais dont l'expression de cette direction, de ce pouvoir, on a l'impression que c'était déliquescent, un petit peu, ça fuyait un peu de partout.
Non, le Bey, le prédécesseur d'Ahmed Bey avait fait en sorte que les tribus ne s'entendent pas entre elles. Donc elles étaient en perpétuel désaccord, ce qui automatiquement influe aussi bien sur la paix sociale que sur l'activité économique. Mais il n'en reste pas moins que la province était assez riche. Alors, fort de ces arguments-là, Yahya Agha a quand même fini par convaincre le Dey de changer le Bey de Constantine, et il a chargé Yahya Agha d'aller lui-même installer Ahmed Bey dans ses fonctions.
Et qu'est-ce qui est arrivé à son prédécesseur?
Bon, son prédécesseur a été arrêté tout simplement. Mais pour ce qui est de l'arrivée d'Ahmed Bey à Constantine, naturellement, on ne voyait pas très bien d'un bon œil l'arrivée d'un organisateur, d'un homme fort, d'un homme intransigeant, et parce que le sérail s'était rompu à d'autres activités,
à d'autres intrigues. D'autres enrichissements parallèles.
Exactement. D'autant plus que Yahya Agha avait, c'était un homme assez influent auprès du Dey, et donc il avait un peu la protection d'Ahmed Bey. C'était lui son protecteur. Et en l'installant justement à la tête de l'administration, il a même renfloué les finances de la province. En y ajoutant une contribution. Ahmed Bey lui-même, en arrivant, à renflouer ces finances-là par des apports personnels.
Par ses propres subsides.
Par ses propres, sur ses propres fonds.
Mais j'imagine que, étant donné la relation, de courtoisie et de diplomatie qui existait entre Ahmed Bey et les différents chefs de tribus, a facilité justement cette installation, étant donné l'attitude de son prédécesseur qui était là, intrigué, à mettre les tribus les unes contre les autres.
Oui, mais en dehors de ce noyau de ce noyau d'administration, l'arrivée d'Ahmed Bey a été très très bien ressentie par pratiquement toutes les tribus. Si bien que quand Ahmed Bey a fait son premier acte de gouvernement, si on peut s'exprimer ainsi, c'était celui de réunir tous les chefs de tribus et d'essayer directement de les intéresser, d'une part, de faire en sorte que les différends qui existaient entre eux soient réglés. Et il a eu cette délicatesse aussi, parce que c'est assez important. Lui, le Kouroli, donc de père turc ou de père ottoman, puisque...
Et de mère autochtone
et de mère algérienne, il avait fait assister à cette réunion de chef de tribu, il avait fait assister le Cheikh l'Islam, c'est-à-dire le mufti de Constantine, qui est de rite malikite.
C'est-à-dire, il a eu une...
C'est une prise de position
pratiquement
officielle à l'égard du rite malikite,
qui était celui de
qui
la
n'est
population.
Pas celui de l'État.
Oui.
Le rite hanéfite était le rite de l'État. Mais lui, il a eu cette préférence envers le rite malikite, d'autant plus que à chaque fois qu'il nommait un qadi, il lui donnait comme instruction de n'appliquer que la sharia et la sunna. Donc ce qui le ramenait beaucoup plus proche, qui faisait de lui un personnage de l'État, beaucoup plus proche du rite malikite que du rite hanafite, en prenant soin de ne pas prendre position contre le rite hanafite.
Mais subitement, là, il se met à avoir l'attitude que seul le Dey d'Alger avait, savoir... avoir dans sa cour, dans son sérail, à la fois le représentant du rite malikite
non,
et
ça,
du rite hanafite.
Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul parce que les muftis étaient souvent associés à la vie publique.
Mais là, c'est au moment de l'intronisation.
Au moment de l'intronisation et surtout au moment du premier contact avec les chefs de tribu en tant que bey, parce qu'il avait des contacts avec les chefs de tribu en tant que khalifa bien avant. Donc on le connaissait. Mm-hmm. On connaissait ses penchants, on connaissait ses origines.
Bien sûr.
Donc tout cela n'était pas quelque chose de nouveau pour les chefs de tribu. Mais là, ils avaient en face d'eux le premier personnage de la province. Mm-hmm. Et donc, ses actes ont beaucoup plus de force.
Et tous les chefs de tribu étaient là. Personne ne s'est fait représenter excuser.
Tout le monde était là. Et connaissant la franchise du personnage, chacun est arrivé avec, sa mallette de problèmes à l'égard de telle ou telle autre tribu ou telle ou telle
Les doléances étaient là.
Donc, il s'est évertué à régler tout cela. D'autant plus qu'il s'était même ingéré un peu dans l'organisation des tribus elles-mêmes, puisque, à la tête des fractions, il a nommé des qaïds, ce qui généralement se faisait par l'intermédiaire des chefs de tribus. Mais c'était là à leur montrer que l'État qu'il représente peut aller jusqu'aux plus infimes charges. Et là, personne n'a osé remettre en question ce qui a été décidé. En plus de cela, Ahmed Bey s'est attaché à rétablir la justice en ce qui concerne non seulement les affaires publiques, les affaires privées, et surtout la charge de l'impôt. Il s'est attaché à en fixer les proportions de façon à ce que on sente plus d'allègement, qu'on comprenne que l'impôt est une contribution à l'organisation de l'État, et non plus comme une peine ou une punition ou quelque chose de ce genre-là. Voilà un peu comment arrive Ahmed Bey. Bon, Ahmed Bey, à ce moment-là, donc nous sommes en 1826, 1827, c'est une année terrible pour l'Algérie puisque la flotte algérienne va être détruite, et c'est là où justement la bonne organisation doit contribuer à la stabilité de l'État. Le blocus français commence à être mis en place, et là, effectivement, le Dey à Alger va ressentir les effets du blocus, et c'est la province de Constantine surtout qui va lui apporter le plus grand soutien, aussi bien matériel que humain. Les rapports vont être beaucoup plus serrés. Et la crise qui est ressentie par l'État algérien à ce moment-là, soit dit en passant, les voisins n'ont pas joué le jeu, aussi bien la Tunisie que le Maroc, dans ce blocus-là, n'ont pas apporté l'aide nécessaire, l'aide que recevait Alger venait surtout de la Tripolitaine, de la province de Tripolitaine, c'est-à-dire la Libye d'aujourd'hui. Et puis voilà, donc pendant cette période-là, Ahmed Bey va continuer à resserrer les liens entre les tribus. Il va en faire une force de frappe assez importante parce qu'il voyait le danger. Vous voyez le danger parce qu'à Alger, on avait tendance à minimiser les effets du blocus et également à minimiser les intentions françaises à l'égard de l'Algérie. Ahmed Bey avait bien vécu la période de l'ultimatum de 1918. Il avait bien ressenti la pression que faisaient les puissances européennes sur l'Algérie. Et donc, en homme avisé et en homme assez serein, malgré ses sautes d'humeur, etc., avait quand même été un grand soutien du Dey. L'occasion de sa présence à Alger en 1830 est une occasion tout à fait fortuite. Ahmed Bey était parti à Alger pour... c'était l'opération de déclaration d'allégeance, puisque ça se fait tous les ans, au moment où on verse le produit des impôts. Donc Ahmed Bey était là, il voyait les préparatifs qui se faisaient de l'autre côté, et c'est là où Ahmed Bey va proposer sa stratégie au Dey. Une stratégie qui, si elle avait été appliquée, peut-être que le cours de l'histoire aurait changé. Alger avait cette réputation de ville imprenable. C'est une réputation qu'elle a depuis l'arrivée de Khair ed-Din, pratiquement. C'est une ville qui était connue pour ses forts, c'est une ville qui était connue pour ses canons. Et les canons algériens étaient très très efficaces.
Oui, mais tournés vers la mer.
Généralement tournés vers la mer, parce que l'on ne pouvait pas
imaginer
qu'un ennemi puisse venir
par la terre.
Par la terre. Bon. Effectivement, même les Français sont venus par la mer. Bon, ils sont venus à côté d'Alger, ils ne sont pas venus sur Alger. C'est un peu la raison pour laquelle même les fortifications n'ont pas été faites à Sidi Farage. Ce que Ahmed Bey avait préconisé bien avant 1830. Ahmed Bey connaissait les points faibles de la stratégie algérienne, stratégie de défense, soit dit en passant, et il avait même essayé de faire pression sur le Dey, sur Hussein Dey, pour qu'il s'occupe un peu de la défense autour d'Alger. Parce qu'effectivement, Alger était désarmé sur ses flancs. La plage de Sidi Fraj était très très propice à un débarquement. Et il fallait absolument la défendre. Ce qui n'a pas été fait.
Ce qui n'a pas été fait.
Donc, avoir été appelé par Hussein Dey pour défendre Alger, cela ne ressort pas ni de ce qui a été fait par la suite. Et au cours même de cette réunion d'état-major, puisque les intrigants,
encore une fois,
ont eu gain de cause, et ils étaient dans l'état-major lui-même. Donc, quand la proposition a été faite de destituer le chef d'état-major, l'Agha Mostafa,
oui.
Cela a été ressenti par Ahmed Bey comme étant une grave erreur. Et c'est là où il a proposé sa stratégie. Parce que si l'Agha Mostafa était resté à la tête de l'état-major,
il n'y aurait pas eu de problème.
Il aurait peut-être pas eu le temps d'édifier les fortifications
nécessaire.
Préconisées par Ahmed Bey, mais il aurait réussi quand même à assurer au moins une riposte assez importante, parce que c'est un... l'Agha Mostafa était un spécialiste de la défense. Sa destitution à la dernière minute a fait que non seulement l'Algérie n'avait plus de chef d'état-major compétent, son remplacement par l'Agha Ibrahim était une catastrophe. Et finalement, le dernier stratège qui restait, c'était Ahmed Bey. Ahmed Bey, à ce moment-là, a préconisé sa tactique en disant que le débarquement ait lieu, qu'on laisse les Français débarquer. Cela ne pose aucun problème. La ville est assez loin. À ce moment-là, toute l'armée se retirerait vers Mazafran, sur la route de Cherchel, ce qui va mettre les Français devant une alternative, ou bien marcher sur Alger. Et à ce moment-là, cette armée qui s'est retirée vers l'ouest de Mazafran prendrait l'armée française à revers, et surtout lui couperait toute possibilité de retraite. Parce que dans toutes les armées du monde, la formule est très connue, l'intendance suit.
Oui.
Donc l'armée avance et c'est l'intendance qui suit.
La logistique.
Alors si vous lui enlevez son intendance, si la logistique tombe entre les mains de l'armée algérienne,
c'est terminé.
À ce moment-là, si les Français vont vers Alger, ils vont se trouver en face des défenses de la ville d'Alger et ils seront pris entre deux feux.
Pris en tenaille entre...
L'autre terme de l'alternative, c'est que l'armée française suive l'armée algérienne vers le Mazafran et donc à ce moment-là, on aurait... protéger Alger.
C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, c'était bon.
Dans les deux cas de figure, ce qui devait être retenu, c'est que, en stratégie, on fait des suppositions. On élabore des plans. Alors, le premier plan, si les Français sont venus pour occuper Alger, l'armée algérienne la prendrait en revers. Et prendrait son intendance et lui couperait la retraite vers ces bateaux. Bon, la marine algérienne était décapitée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait quelques bateaux. Si l'armée qui se trouve sur terre était en difficulté, cette marine n'avait plus rien à apporter que le bombardement. Or, le bombardement, les canons d'Alger étaient là pour et également certaines escarmouches avec les bateaux algériens qui restaient. Dans l'autre cas, il est évident que le danger sur Alger n'existant pas, on pouvait compter sur les renforts qui pouvaient arriver de part et d'autre, aussi bien du Beylik de Titri que du Beylik d'Oran. On donnerait à ce moment-là le temps aux tribus algériennes, puisqu'elles sont l'ossature du pays, on donnerait le temps à ces tribus de lever des troupes et d'arriver à temps pour pouvoir sauver la situation. Voilà un peu la stratégie d'Ahmed Bey.
Et bien entendu, l'histoire montrera qu'on n'aura retenu aucune de ces propositions.
On ne les a pas retenues et Ahmed Bey s'est considéré comme frustré parce que cela lui faisait quand même mal au cœur que l'État tombe devant lui et il est impuissant. Et là, nous retrouvons également le personnage. Cette sonne d'humeur quand l'armée française est entrée dans Alger et qu'elle a continué au-delà d'Alger jusqu'à Al-Harrach, c'est à ce moment-là qu'Ahmed Bey, considérant que le centre du pouvoir était tombé, il ne lui restait plus qu'à défendre son beylik et il est parti, il est rentré à Constantine.
Donc là, je crois qu'on va faire cette... pour traiter Ahmed Bey, ce personnage particulier, nous allons envisager une troisième partie, celle qui concernera son retour à Constantine et comment Ahmed Bey va organiser à son tour, au sein de son beylika, comment va-t-il organiser la défense de Constantine et de cette province et de quoi sa stratégie sera faite et comment il livrera bataille. C'est ce que nous verrons mercredi prochain pour une troisième partie consacrée à Ahmed Bey.
Bien.